ma radio.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Auditeurs de Calade, bonjour. Vous écoutez Les couleurs du monde, votre nouvelle émission mensuelle, qui est diffusée tous les 3e jeudi du mois à 20h et rediffusée le samedi suivant à 11h. Nous allons parler aujourd'hui de voyage. C'est merveilleux, c'est formidable. Mais avant, les choses sérieuses, la chronique géopolitique de Jean-François. C'est à toi, Jean-François.
Les couleurs du monde.
Bonsoir, Jeff.
Bonsoir.
Alors, de quoi tu vas nous parler ce soir ?
L'actualité est très chaude, mais j'ai voulu prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui se passe en Israël actuellement et plutôt vous parler de ce qui est arrivé au mois de septembre au Haut-Karabakh. En effet, l'un des plus vieux conflits gelés issus de la dislocation de l'URSS, un vrai casse-tête ethno-territorial, vient de connaître un dénouement d'une rapidité spectaculaire. L'autodissolution du Haut-Karabakh, qui sera effective le 1er janvier 2024, a en effet surpris plus d'un observateur. 24 heures après le lancement d'une offensive des forces azerbaïdjanaises, le mardi 19 septembre dernier, dans cette enclave située en Azerbaïdjan, mais presque exclusivement peuplée d'Arméniens et que Bakou et Erevan se disputent depuis des décennies, les séparatistes ont accepté de déposer les armes. Ce tournant historique va entraîner des recompositions géopolitiques dans le Caucase et ainsi contribuer à modifier les rapports de force entre les États de la région.
Bon, ok, très bien. Mais alors, on connaît finalement assez peu cette région du Caucase. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Déjà, c'est quoi le Haut-Karabakh ?
Alors, le Haut-Karabakh, c'est aussi appelé l'Artsakh par les Arméniens. C'est une région montagneuse d'Azerbaïdjan, située dans le Caucase du Sud, à l'extrémité de la chaîne à laquelle il doit son nom. Sa superficie est équivalente à celle de la Savoie, hein, mais elle ne comptait que 120 000 habitants, qui étaient 99% d'origine et de langue arménienne et de confession chrétienne, alors que leurs voisins azerbaïdjanais sont majoritairement musulmans et turcophones.
Ok. Alors, historiquement parlant, comment tu expliques les différends entre arméniens et azerbaïdjanais ?
Pas facile à dire, hein. Les Arméniens revendiquent une présence millénaire dans la région, mais l'Azerbaïdjan fait également valoir des liens historiques profonds et anciens. Effectivement, d'abord intégrée au royaume arménien dans l'Antiquité, cette région est passée sous influence arabe au Moyen-Âge, avant qu'une révolte ne la fasse revenir dans le giron d'Erevan. Le Haut-Karabakh est ensuite absorbé par l'Empire russe en 1805, puis l'Arménie et l'Azerbaïdjan se le disputent lors de la guerre civile qui va suivre la révolution bolchevique de 1917. En 1918, les deux pays proclament leur indépendance et les combats reprennent au Karabakh. En 1921, le fameux Joseph Staline, alors commissaire du peuple aux nationalités, qui usait déjà de son principe de diviser pour régner, rattache le Haut-Karabakh, peuplé majoritairement à l'Azerbaïdjan. La région obtiendra toutefois l'autonomie en 1923, statut qui restera inchangé pendant 75 ans.
On en vient alors à des conflits qui nous sont beaucoup plus contemporains. Il me semble que cette région a connu deux guerres, c'est ça, hein ?
Ouais, tout à fait. Hein, ouais. En février 88, en fait, ce qui se passe, c'est que le Soviet du Haut-Karabakh vote son rattachement à l'Arménie. Un premier conflit armé de grande ampleur éclate alors. Il fera quand même 30 000 morts et des milliers de disparus. Entre-temps, l'URSS s'effondre. L'Arménie et l'Azerbaïdjan retrouvent leur indépendance, donc à l'été 91. Et le Karabakh proclame la sienne le 2 septembre 91. Alors, ce qui serait intéressant, c'est qu'elle est reconnue par personne, finalement, son indépendance, pas même par l'Arménie, ce qui n'empêche pas, quand même, cette dernière de soutenir politiquement, économiquement et militairement le Haut-Karabakh. Ensuite, avec le départ de l'armée soviétique, le conflit s'aggrave. La Russie, qui a un traité de défense lié à l'Arménie, mais qui entretient également de bonnes relations, quand même, avec l'Azerbaïdjan, parvient à négocier un cessez-le-feu le 17 mai 1994. L'Azerbaïdjan a ainsi perdu 13% de son territoire que plusieurs centaines de milliers d'habitants ont dû fuir. Depuis, le groupe de Minsk, et là c'est, on va intervenir, l'Europe va intervenir ici dans ce groupe de Minsk, qui est créé 2 ans plus tôt, va être coprésidé par la France, la Russie et les États-Unis et va tenter de trouver une solution, mais sans succès. D'ailleurs, en avril 2016, la poudrière va menacer à nouveau d'éclater avec la guerre des 4 jours. Puis, fin septembre 2020, après de multiples accrochages, l'Azerbaïdjan relance les hostilités avec l'appui de son allié turc, qui va lui fournir du matériel, comme par exemple des drones, et va lui envoyer aussi des mercenaires syriens à sa solde. 6 semaines vont suffire à son armée pour écraser les forces arméniennes et reconquérir un tiers du Haut-Karabakh. où les combats feront à peu près 6500 morts. Un nouveau cessez-le-feu sur lequel doivent veiller quelque 2000 soldats russes est conclu le 10 novembre 2020.
Alors, la situation est restée tendue depuis cette revanche de l'Azerbaïdjan. Et comment est-ce qu'on en est arrivé aux violences de septembre ?
Alors, les tensions, en tout cas, sont montées d'un cran en décembre 2022, lorsque l'Azerbaïdjan a fermé la circulation, le corridor de Latchine. Ce corridor, en fait, c'était la seule voie d'accès entre l'Arménie et le Haut-Karabakh. Cette décision entraîne de graves pénuries de nourriture et de médicaments pour cette population qui est désormais totalement isolée. En juillet, Erevan a invité la communauté internationale à essayer de chercher des solutions pour mettre fin à ce blocus. Et Erevan a eu peur d'un nettoyage ethnique en fait, de cette région. Et malgré les médiatisations séparées de l'Union européenne, des États-Unis ou de la Russie, Erevan et Bakou ne sont jamais parvenus à s'entendre sur un traité de paix. Ensuite, le 19 septembre, donc très récemment, l'Azerbaïdjan est repassé à l'offensive. Devant l'absence de réaction de l'Arménie et face à la puissance de feu des forces adverses, les séparatistes ont rapidement cédé. L'exode massif des habitants du Haut-Karabakh en direction de l'Arménie a eu lieu depuis.
Ok. Alors, quelles recompositions géopolitiques sont à l'œuvre dans cet instable Caucase ?
Déjà, on peut identifier facilement des gagnants et des perdants dans ce conflit. Alors, les premiers perdants, évidemment, c'est la République d'Arménie et le territoire du Haut-Karabakh. L'Arménie doit en effet se mordre les doigts d'avoir refusé de négocier après leur victoire de 1994, alors qu'elle était en position de force. Depuis, elle n'a pas vu ou voulu voir le réarmement de l'Azerbaïdjan. La Russie est l'autre grand perdant. Parce qu'elle était concentrée sur l'Ukraine, elle n'a pas su prévenir ce dénouement. C'est vraiment un coup dur pour Moscou, tant les dirigeants russes ont depuis des lustres tenu le Caucase comme leur précaré. Enfin, les instances de régulation internationale, tout particulièrement l'ONU et le groupe de Minsk, ont elles aussi malheureusement prouvé leur impuissance. L'Union européenne, enfin, a montré sa lâcheté en se contentant de jugements souvent moraux mais peu opérationnels. Outre les divisions qui existent en son sein, l'accord de coopération stratégique dans le domaine de l'énergie, contresigné par Ursula von der Leyen et le président de l'Azerbaïdjan Ilham Aliyev en juillet 2022, n'est peut-être pas étranger à l'aspect inaudible de la politique de l'Union européenne dans la région.
Bon, il y a quand même quelques gagnants dans cette histoire.
Quand même, l'Azerbaïdjan, bien sûr, en premier lieu, qui a retrouvé la souveraineté sur l'ensemble de son territoire national et qui apparaît vraiment comme la puissance ascendante au Caucase. La Turquie est également gagnante, elle aussi, parce qu'elle a toujours soutenu Bakou dans ses revendications au nom du principe d'une nation, deux États, donc la nation turque pour deux États, l'Azerbaïdjan et la Turquie. Et elle a largement contribué à la modernisation des forces militaires azerbaïdjanaises au cours des dernières années. Israël, enfin, qui est présente également dans l'aide à l'Azerbaïdjan, est là pour contenir la puissance iranienne. Elle n'a donc pas ménagé ses efforts pour soutenir l'Azerbaïdjan.
Quelle perspective alors ?
Pas forcément en folichonne, parce que Bakou souhaiterait maintenant créer le corridor de Zanguzour, qui permettrait de relier le Nakhitchevan. Le Nakhitchevan, c'est une région en fait, de l'Azerbaïdjan qui est totalement coupée du reste de l'Azerbaïdjan par l'Arménie. Et il voudrait faire un corridor qui permettrait de relier les deux. Ce corridor est vraiment très important pour l'Azerbaïdjan et la Turquie parce qu'il permettrait de faire un lien direct entre la mer Noire et la mer Caspienne, et entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Chacun peut donc comprendre qu'en matière, les enjeux qui sont présents ici en matière d'hydrocarbures et vraiment la place que prendrait la Turquie qui serait particulièrement influente dans cette région. Mais le risque ici, encore une fois, serait très fort de rentrer dans une nouvelle logique d'affrontement militaire. L'Arménie qui défend dans cette hypothèse son intégrité territoriale qui serait menacée par ce corridor. Enfin, pour conclure, on peut dire que l'imbroglio caucasien, il n'a pas fini de produire des tensions.
Ah, donc tu es en train de nous dire que voilà une région qui nous rappelle une autre région, tout aussi sous le feu de l'actualité.
Exactement, dont on reparlera certainement.
Bon. On va passer à la suite.
Merci.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Merci Jean-François pour cette chronique sur un sujet effectivement assez nébuleux pour nous les pauvres Français. Merci Geneviève pour lui donner la réplique. Geneviève, aujourd'hui, nous allons parler, et chers auditeurs, nous allons parler du voyage. Alors, c'est une drôle d'idée parce qu'on est au mois d'octobre et bon, au mois d'octobre, on pense pas trop aux vacances. Mais nous avons une idée derrière la tête. On va pas parler du voyage en général, on va parler, en fait, d'une évolution qui a eu, qui s'est déroulée sur ces 30 dernières années. Il faut être âgé comme moi, voilà, pour l'avoir vécu en direct, live. Cette évolution, c'est en fait, à partir de la deuxième moitié des années 90, le constat que les classes moyennes se sont mises à accéder aux voyages au long cours, c'est-à-dire aux voyages à l'étranger. Et il y a eu soudain une explosion du voyage par avion dans le monde entier. Et le tourisme mondial est devenu un tourisme de masse.
Ah, attends, tu m'intéresses là, parce que voyage-tourisme, pour moi, c'est pas pareil. Hein.
Oui, c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Là, je parle de tourisme, je parle pas de voyage. Exactement, merci Geneviève. Et pourtant, y a une catégorie de population, mais en fait, les jeunes qui commençaient à arriver, hein, je dirais, à l'adolescence, puis à l'âge adulte, qui se sont mis, eux aussi, à voyager. Et là, peut-être qu'on va revenir sur le terme voyage et non plus tourisme, mais autrement. Et c'est un peu le point de départ de notre émission. On a tenu un petit peu à creuser cette question. Qu'est-ce qui fait la différence entre les adultes classiques qui font du tourisme massif dans le monde entier et les jeunes qui voyagent parfois autrement? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Je te laisse la parole, Geneviève.
Ben oui, voyager autrement, voyager seul quand on est une femme, voyager au long cours. Voilà, pour moi, c'est effectivement assez caractéristique de cette nouvelle génération qu'on appelle les millennials. Voilà. Je crois qu'on a réussi à avoir deux spécimens de millennials sur le plateau. Est-ce
Exactement.
Que vous voulez vous présenter?
Deux invités.
Déjà, qu'est-ce que c'est une millennials?
Nous, déjà, on est des vieilles millennials, hein, quand même.
Ah, attendez, alors, on va commencer par définir déjà avant d'apporter des nuances tout de suite.
Déjà, mesdames les inconnues.
Pensez aux auditeurs.
Est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter succinctement?
Allez, je me lance. Du coup, Bulle et Sandra, je vais faire une présentation collective.
C'est bien.
On se connaît depuis un peu moins de 10 ans. On s'est connus dans un monde du travail, de l'industrie agroalimentaire. Et après avoir changé de voie, aujourd'hui on est tous les deux dans l'enseignement, on s'est mis à voyager ensemble. Et il y a un lien évidemment entre notre métier et le temps que ça nous permet d'avoir pour voyager.
D'accord. Vous avez choisi l'enseignement pour avoir des vacances assez importantes pour pouvoir voyager.
Ah, et voilà.
Au long cours.
Non mais Patrick, tout de suite, tu as besoin de caricature là. Stop. Ouvrons les esprits.
C'est
feignant, ce soir,
prof.
On va parler aventure. Voilà, ça, c'est une belle définition de ce que c'est que le voyage. Laisser surprendre. Voilà, ça, c'est le programme de ce soir.
De toute façon, je suis en minorité ce soir. Trois dames autour du plateau, donc tu as raison, Geneviève. Ok, très bien, très bien. Donc, vous avez cette expérience de voyage à deux. Qui remonte à combien d'années alors?
La première fois, c'était en 2018.
D'accord, donc environ 5-6 ans. Mm-hmm. Ok. Et ce qui nous a intéressés dans vos témoignages, c'est votre façon de voyager. C'est-à-dire, disons-le clairement, vous êtes allé assez vite, peut-être pas dès le départ, mais sur le principe d'un voyage pour un séjour de longue durée dans un lieu donné, ou au pire, dans deux pays limitrophes. Et c'est cet aspect qui, pour moi, marque une différence assez importante, qui nous a paru vraiment intéressante à découvrir et à creuser. D'où votre présence ici, mesdames.
Moi, j'ai envie juste de dire que ce soir, j'ai la sensation qu'on va parler aventure et quelque part de redonner toute sa noblesse à la notion de voyage. Mmh. Quelles sont vos destinations vraiment qui vous ont marqué en tant qu'aventure?
Bah, le premier long voyage qu'on a fait ensemble, on est parti un mois et demi au Kyrgyzstan.
Voilà, déjà, ce n'est pas une destination classique.
Ouais. C'est où?
Bon, bah là, on a un spécialiste
qui peut
nous demander éventuellement.
On a bien déjà sinon, un peu abordé le sujet, mais concrètement, pourquoi cette région?
Alors, c'est un peu le karma qui a fait ça, parce que c'était en 2021, on devait partir au Malawi, et le Malawi, pour des raisons covidesques, a refermé ses frontières quelques semaines avant qu'on s'envole. Du coup, on a dû trouver une destination qui ne soit pas hors de prix, qui ne nécessite pas de visa et qui soit OK d'un point de vue pandémique. Et on s'est retrouvés au Kyrgyzstan.
OK. Mais alors, du coup, vous avez pris l'Atlas, vous avez fait...
Aujourd'hui, il y a un super outil, c'est Google. Et Google Images, ça nous a un peu aidé.
Ah, vache, ouais. Alors, OK, millennials. Okay.
Ben oui, il y a aussi ça qu'on abordera, bien entendu, bien entendu.
Notre première recherche, on a fait une petite liste, on a regardé un peu les risques de sécurité, etc. Parce qu'on part à l'aventure, oui, mais on ne va pas non plus se jeter dans la gorge du loup. Et dans la
gueule. Enfin, on n'a pas dit tête brûlée non plus. Hein.
Voilà, exactement. Et en fait, on a fait une petite recherche Google Images. Et on s'est dit, ah oui, dis donc, ça a l'air joli.
Ah.
Et
d'accord.
Voilà. On a acheté les billets, deux, trois jours avant de s'envoler.
Et donc là, à ce moment-là, réservation, hôtel, bien sûr que non. Hein.
Pas tellement. Première nuit, j'imagine. On arrivait de nuit à Bishkek, du coup, qui est la capitale du Kyrgyzstan. Clairement, on ne savait pas ce qu'il y avait à faire au Kyrgyzstan. Et il n'existe même pas de guide papier type le routard sur le Kyrgyzstan. Donc, on y va à l'aveugle, avec la première nuit de réservée.
Et de fait, le fait que c'était un changement de dernière minute, de toute façon, faisait que vous n'aviez pas eu le temps de préparer quoi que ce soit.
Exactement.
D'accord. Donc là, vous êtes vraiment dans de l'aventure, en quelque sorte. Mmh. Alors, le Kyrgyzstan, vous ne l'avez pas dit, hein, c'est où le Kyrgyzstan ?
Alors, Kyrgyzstan, ça a des frontières avec l'Ouzbékistan, avec la Chine, avec
d'accord.
la Russie.
D'accord.
Et au nord, je ne suis pas sûre de mon coup.
Asie centrale, en tout cas. Petit pays,
okay.
oui. méconnu.
D'accord, très bien. Et est-ce que c'est un pays touristique, au sens où il y a un flux de touristes important ?
Non, pas du vraiment, tout.
Pas du tout, vous êtes arrivé vraiment d'un pays qui était différent, quoi, en quelque sorte.
Ah ouais. Et puis là, oui.
Qui ne partagent pas le même alphabet que nous, puisqu'ils utilisent l'alphabet cyrillique.
D'accord, influence russe, ouais.
Qui parle du coup russe et kirghiz, qui sont les deux langues officielles okay. du pays.
Donc super, pour se faire comprendre.
Absolument. et qui ne parle pas anglais.
Pas du tout.
Bah alors du coup, on communique comment ?
Alors, eh ben avec Google Translate, hein, pardon,
non, ah, ben
pour
voilà.
la firme américaine.
Non, non, mais c'est
et là,
bien, c'est intéressant.
Sans smartphone, quand même, ça semble un peu compliqué tout ça, non ?
Alors, quand on est arrivé à Bishkek, on a quand même assez vite... On a même acheté un petit imagier pour enfants avec l'alphabet cyrillique.
Ah,
D'abord, on a appris l'alphabet parce que c'était vraiment une nécessité. L'alphabet, les sons pour pouvoir lire des panneaux, des choses comme ça.
D'accord.
Quand on voulait se rendre dans une ville, on écrivait le nom de la ville en cyrillique sur notre main pour la montrer aux chauffeurs de bus ou aux gens dans les gares, dans la rue et tout, pour qu'ils nous comprennent. Parce qu'en prononciation, c'était pas toujours facile non plus. On fait beaucoup de mimes. On est excellente.
Ça brise la glace.
Ça brise la glace. Voilà, ça, c'est vrai que ça brise la glace. Donc, de toute façon, à un bout d'un moment, tu n'as pas d'autre choix que de mimer. Et puis ça les fait rire quoi.
Ah oui, je pense que ça.
Mais est-ce que ça justement, c'est pas un premier contact qui change tout
Si si, ça c'est sûr. Alors par contre, il y a des gens qui sont pas du tout réceptifs à ça, hein, donc
qui manque d'humour.
Faut être prêt aussi à se prendre des grands murs, mais quand ça marche, c'est super parce que l'humour, pour le coup, c'est universel. Donc.
Alors vous dites que c'est un pays qui est pas très touristique, et donc justement, comment le commun des mortels, quand il vous voit, comment il vous accueille entre guillemets, comment il vous perçoivent hein s'ils n'ont pas l'habitude de voir des touristes. Bon, au
alors,
niveau,
ça dépend des pays. Hein.
Je dirais, c'est des caucasiens, comme on dit, hein, donc des gens de peau blanche, etc. Donc ça choque pas trop. Mais ou alors, dites-nous, je sais pas.
Bah, pas tout à... ils sont un petit peu plus typés, un peu comme les Mongols. Si
d'accord,
tu vois,
y a oui, déjà ok.
Une
partie un peu asiatique.
Ouais, asiatique. Exactement.
D'accord.
Au Kyrgyzstan, c'était assez facile. Le lien était... ils étaient très ouverts, finalement, assez curieux. Et c'est une expérience un peu différente qu'on a vécue cet été, par exemple, quand on est parti au Rwanda. Mmh,
Tout à fait. Donc, oui, je reviens à ma question. Comment voilà. Quelle est la première réaction qu'ils ont ? Est-ce qu'ils sont plutôt fermés, plutôt méfiants,
timide.
Plutôt ouverts, timides ?
Pas vraiment fermés, mais timides. On prenait beaucoup les transports en commun. C'est un peu notre façon de voyager. Donc, on se retrouvait dans des mashrutka, qui sont des sortes de minibus blindés, hein, donc on était une vingtaine à peu près. Tout le monde nous regarde pendant longtemps, puis on arrive avec nos énormes sacs à dos, donc
prenez
de toute
toute
façon,
la place.
On suscite la curiosité. Et ils nous regardent pendant longtemps, puis après, quelqu'un tente la conversation, quoi,
ah, oui.
demander un petit peu d'où on est. Alors, soit quelqu'un qui baragouine un peu
l'anglais,
soit nous, ça nous arrivait de proposer des chewing-gums, de jouer avec les enfants, etc. Les enfants, c'est aussi un bon moyen de faire un premier contact, parce qu'ils sont nettement moins timides, en général.
D'accord.
Et donc voilà, c'est plutôt timide, mais après, ça se fait. Par contre, on n'est pas rentré dans des relations très profondes. Hein.
Mm-hmm.
Là, la barrière de la langue, elle...
Enfin, pas dans des relations très profondes, et en même temps, j'imagine qu'assez rapidement, il n'y a plus d'hôtels, il y a plus de... Il y a encore moins de clubs de vacances, on est d'accord. Du coup...
Oui, parce que vous aviez cette idée, vous partez, et dès le départ, vous aviez prévu de rester un mois, c'est ça ?
48 jours, exactement.
48 jours.
C'est bravo. Important.
D'accord. Donc, il y avait cette philosophie. C'était la première fois que vous tentiez cette forme de voyage au long cours ?
Oui. Oui.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé, justement, pour passer à cette étape-là ? C'est-à-dire passer, je présume, de voyage d'une semaine ou de maxi à du long cours ?
Bah, c'est l'opportunité. C'était la première fois qu'on était disponibles toutes les deux l'été. Et moi, j'avais une grosse année. C'était une bonne récompense.
D'accord, ok. Ok.
L'occasion.
Le temps disponible.
Le D'accord. temps disponible. Et du coup, donc assez rapidement, vous avez un plan qui s'établit petit à petit.
Oui, vous avez fait quoi alors ?
On a dû trouver, dans la première auberge de jeunesse où on a dormi le premier soir, un superbe livre autour du Kyrgyzstan, les pistes du Kyrgyzstan. Donc c'est un guide qui est destiné aux personnes qui sont en moto ou en 4x4 pour arpenter les chemins.
En anglais alors du
en
coup
français.
En français.
En français ?
Non.
Incroyable. Créé par deux français. Incroyable. J'ai mangé le nom, mais ils ont des super photos, c'est incroyable. Donc ça nous a vraiment donné envie de parcourir. Et c'est comme ça qu'on a identifié des endroits dans le pays qu'on souhaitait visiter. Et après, comment y aller, par contre, c'est un vrai challenge.
Est-ce que c'est un grand pays sur le plan de la surface? Ça représente à peu près quoi par rapport à la France?
C'est un grand pays en termes de distance, en fait.
C'est-à-dire, il y a d'un bout à l'autre, il y a 1000 km un peu, quelque chose comme ça? Ou c'est en longueur, c'est un pays...
J'en ai aucune idée. Non, c'est plutôt large.
D'accord.
C'est plutôt large, c'est escarpé, puisque c'est un pays, j'ai plus en tête l'altitude moyenne, mais qui est très élevé.
Oui.
On a des gens qui partent faire de l'alpinisme.
D'accord.
Le mont Lénine est
à 7000, je crois.
Est à 7000 mètres d'altitude. Donc c'est vraiment des routes qui sont souvent compliquées, sur lesquelles il est difficile de rouler. Et les Mashrutka, qui sont donc ces minibus vieilles du temps de l'URSS, ne sont pas non plus très rapides.
Votre philosophie, c'est ce n'est pas sur place, je vais louer un véhicule et rouler jeunesse. C'est pas trop votre truc.
On l'a déjà fait, on l'a pas fait là. On trouvait que c'était trop risqué. En fait, c'est beaucoup de contraintes aussi, souvent, de louer un véhicule d'un point de vue mécanique. C'est stressant. Donc là, on l'a pas fait.
Et mine de rien, ça nous isole. On l'a déjà fait sur des voyages courts et ça nous isole. On est deux dans la voiture, c'est super, on peut aller où on veut. Mais pour rencontrer les autres,
forcément,
c'est compliqué.
Rester dans une petite parenthèse et c'est pas le but en fait.
Exactement.
Tout à fait.
Bon, j'ai fait une petite recherche Google, puisqu'il paraît que
merci
tout
Google.
Voilà.
Vive le monde moderne.
Alors, le Kirghizistan ou République Kirghize, donc c'est 199 900 km².
Formidable. Et la France, c'est combien? Si tu compares pas à la France, ça me dit rien du tout. Jean-François, c'est combien la France? Il ne sait pas. Merci Jean-François.
Heureusement qu'il n'y a que des enseignants sur ce plateau.
Alors, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause musicale avant de préciser tout ça.
543 940
km². Donc c'est plus petit que la France quand même.
Quand même.
C'est assez petit. Et d'ailleurs, au milieu du voyage, on s'est dit, mais un mois et demi ici, est-ce qu'on va s'ennuyer?
Ouais, voilà. Tout à fait.
Et non.
Alors, et non,
si vous voulez bien... On reprend cette conversation après une petite pause musicale. Nous allons écouter, bien entendu, ce sont nos invités qui ont choisi. Gaël Faye, Buttare.
Gratte dehors, plein de bruit qui court. Dans la cour, le chien à trois pattes. Margarine et pain trempés dans du thé pour petit déjeuner. La maison s'éveille et mamie serre le lait. Au mur, Marie d'où Jésus, fils de Dieu le Père. Et toujours, on continue la radio des blatteurs. Sur un apron, vase de fleurs en plastique, tu égrènes ton chapelet, mamie, t'énumères tes principes. Le respect, la famille, le mariage. Le jacaranda en fleurs déploie son ombrage. C'est pas une chanson triste, c'est juste un temps d'arrêt. Une journée à bout d'arrêt. Dieu rentre au Rwanda, le ciel a des teintes mauve jacaranda. Quand les chauves-souris commencent leur raffut, c'est l'heure des lumières blafardes qui s'allument. Dans ta grande maison où tombe la nuit, passe à l'improviste quelques amis. Un thé citronnel, une mousse Amstel, on parle tout bas d'un tel et un tel. Demain je repars vers la France lointaine, tu vas me manquer. Mamie, comme je t'aime, comme je t'ai aimé toutes ces années. C'est pas une chanson triste, c'est un temps d'arrêt.
assez calme chez mamie. On ne s'est pas vraiment occupé du jardin. Il y a toujours une brouette qui traîne. Il y a le bruit des oiseaux, des coqs alentours. Il y a l'odeur de l'eucalyptus et la brume de Poutaré. De la buée qui sort de la bouche, le bout du nez qui refroidit, le rose du ciel matinal, les portes qui grincent et les gens qui chuchotent. Elle a toujours des pyjamas démodés à souhait, ceux qu'on voit dans les vieux films, dans les westerns. Mamie, elle met toujours un filet sur la tête pour dormir et souvent des bigoudis. Quand elle fait des mouvements éreintants pour une femme de son âge, comme enlever ses chaussures ou à la fin d'une longue journée, quand elle sent tout son dos se raidir en s'asseyant sur le lit, elle ponctue le mouvement avec un « Mamie chauffe un peu d'eau le matin, qu'elle mélange à de l'eau fraîche pour qu'on puisse se laver. Parce que j'ai frais le matin, un coup d'arrêt. »
Calade.
Les couleurs du monde.
Vous écoutez Les Couleurs du Monde sur Calade 100.9, votre émission, votre nouvelle émission mensuelle, consacrée aujourd'hui à, non pas aux vacances, mais aux voyages, aux voyageuses. Geneviève est là pour me reprendre, merci Geneviève. Nous venons d'écouter Gaël Faye, qui la chanson s'appelle Boutaré, je ne sais pas si on prononce à la française ou à...
Boutaré, oui.
Boutaré, d'accord. Et c'était donc à la demande de Bulle, qui va nous expliquer, parce qu'il y a un contexte à cette chanson, et j'aimerais bien le découvrir, dis-nous.
Donc c'est une chanson qu'on connaissait avant de partir au Rwanda cet été et on aimait beaucoup cette chanson et du coup on avait très envie d'aller visiter la ville de Boutaré.
D'accord, c'est une ville rwandaise.
Voilà. Ah ouais, donc c'est la chanson qui est déclencheuse là, de la destination en fait.
Un peu, ouais, absolument.
C'est génial ça.
Ouais, on savait en allant au Rwanda qu'on irait à Boutaré sur le d'accord. principe.
Et
en fait on y a passé une semaine à vivre chez des locaux et c'était encore mieux que...
Mais c'est vrai que sur le papier, il n'y a pas grand-chose à voir à Boutaré ou à Ouillé. La nature est belle, mais pourquoi un endroit plus qu'un autre ? Et finalement, on a vécu une aventure humaine avec des locaux qui était incroyable.
Ouais, donc en fait, on ne voyage pas que pour les paysages, on voyage aussi pour découvrir des gens.
Ah, surtout pour découvrir des gens.
On peut développer alors autour de votre voyage au Rwanda, le plus récent. Donc, on a parlé du Kyrgyzstan. On va laisser de côté un autre voyage que tu as fait seul, mais bon, qui n'était pas très très intéressant globalement. Donc, on va passer directement à ce voyage au Rwanda. Donc, on vient de découvrir, d'après ce que vous nous dites, le point de départ. C'est cette chanson qui vous a aiguillé sur le Rwanda, c'est ça ?
Non.
Non, dommage, le storytelling était trop beau.
On a dit pas de caricature ce soir.
C'est vrai, c'est vrai.
Le point de départ est en réalité le même que celui du Kyrgyzstan.
D'accord.
On devait partir au Malawi.
Ah oui, encore. Oui, on devait pas de bol avec le Malawi.
On avait toujours décidé de partir au Malawi. Et force est de constater que les billets d'avion pour le Malawi étaient extrêmement chers. Donc on a regardé dans la région quel pays avait l'air sympa.
Et plus dans vos bourses.
Et plus dans notre budget.
Et du d'accord. coup, on n'est même pas allé au Rwanda. On est d'abord allé en Ouganda.
Alors, pourquoi c'était un préalable, je dirais, l'avion passait par l'Ouganda ?
C'était un préalable financier.
Ah, pourquoi financier ? Je ne comprends pas.
Parce que les billets pour l'Ouganda étaient nettement moins chers que celui
de Rwanda. Ah, d'accord. OK.
Et on a fait, du coup, Ouganda et Rwanda.
Et donc, vous avez rejoint le Rwanda via l'Ouganda par la route ?
Par les bus,
oui.
Toujours comme d'habitude, par les bus, voilà.
Exactement.
Et alors, donc, on a parlé un peu de contexte kirghize, mais dans le contexte africain, ougandais d'abord. Bon, alors, on vous reconnaît, vous êtes blanche, hein, dans une population à majorité noire, mais est-ce que le tourisme est quand même plus pratiqué en Ouganda et au Rwanda ? Je pense oui, quand même, non ? Par rapport au Kyrgyzstan.
Oui, au Kyrgyzstan, oui.
Mais c'est une forme de tourisme... Il faut avoir les moyens, en fait, principalement, parce que si vous y allez souvent pour faire des safaris, pour voir des gorilles au Rwanda,
oui,
par exemple,
bien sûr.
Et c'est hors de prix. Mm-hmm. Donc, les touristes qu'on a croisés, et on en a croisé assez peu, étaient de riches touristes qui voyageaient en tour.
D'accord.
Ouais, et donc, ils voyaient finalement du pays, ce à quoi ils s'attendaient exactement, c'est-à-dire ce qui est déjà dans les photos des revues de voyage, qui est déjà finalement pas de l'aventure, puisque l'aventure, c'est surprendre.
Ah oui, tout ce qu'ils ont vu, ils ont dû le voir sur une brochure avant, c'est sûr.
Et puis après, on check.
Et puis, du coup, ils se promènent dans leur voiture safari. Vraiment, donc ils sont visibles aussi.
Ouais, ça c'est pas ce qui vous intéresse justement.
Pas du tout.
On s'est retrouvé une fois à voyager dans cette voiture parce que bon, on n'avait pas bien compris, il nous fallait un chauffeur. Nous, on est venu avec notre petit taxi
local
exactement. Et il nous fallait un chauffeur pour rejoindre un point de randonnée. Donc on s'est fait inviter dans une Jeep rutilante. Or, on avait été très mal à l'aise puisqu'on a traversé des campagnes assez miséreuses avec des enfants qui demandaient à manger, qui faisaient la manche. Et on traverse ces villages dans une voiture qui coûte probablement ce qu'ils ne gagneront jamais.
Bien sûr. C'est intéressant parce que c'est justement un peu le point de départ de cette émission, de confronter un peu ces deux façons de découvrir le monde, hein, la façon industrielle du tourisme de masse et la vôtre. Donc on est pile dans le sujet. Et le fait de se mettre mal à l'aise, c'est assez révélateur, oui, d'un état d'esprit que vous avez donc quand vous êtes en voyage, en quelque sorte. Donc l'Ouganda, première étape, vous êtes resté quelques jours avant de passer au Rwanda ?
Exactement. Ouais, ouais, ouais. Mm-hmm. Et on y retournait plus tard sur la fin du voyage, une quinzaine de jours.
D'accord. Donc vous passez en bus, vous rejoignez le Rwanda. C'est quoi votre impression ? Rwanda, un pays quand même assez touristique quand même. Hein. Je veux dire, c'est, quand on écoute les conversations autour de nous, c'est pas rare d'entendre des gens qui disent « je vais au Rwanda ».
Oui, parce que le Rwanda, c'est connu pour être la Suisse de l'Afrique. Donc ce qui est très rassurant pour beaucoup de gens, c'est que c'est propre et safe.
Ouais, alors, vu l'histoire lourde de ce pays, ça paraît très étonnant de dire des choses comme
ça. C'est pas le premier adjectif qui viendrait à l'esprit,
mais c'est vrai que c'est safe parce que l'armée est omniprésente et que
Le d'accord. prix de cette sécurité.
Et le côté suisse, c'est aussi que tout coûte très cher.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, on aurait pu s'en douter avant de partir.
Et vu qu'on n'a pas préparé le voyage, on s'en est rendu compte dans le dur.
Attends, vous n'avez pas plus préparé le voyage au Rwanda que vous aviez préparé celui au Kyrgyzstan ?
Mais non, parce que comme finalement au Kyrgyzstan, ça s'est bien passé, on s'est dit que...
Vous avez adopté ça comme philosophie.
C'était très bien.
Et puis on était dans le rush de la fin de nos cours, on est parti 2 jours, je crois, avant la
fin. Attends, mais voilà, je veux dire, c'était pas prévu, mais c'est tant mieux, quoi. Voilà. Sinon, attention, on retombe dans du tourisme.
C'est vrai. D'accord. Mais du coup, ça crée parfois aussi un peu
des angoisses, situations,
des mésaventures ou des... Il faut être flexible très vite, en fait, quand t'as pas préparé. C'est ça.
Ouais. Donne-nous un exemple.
Capable de se retourner très vite. Typiquement Kigali,
la capitale.
Donc capitale du Rwanda. On est arrivé par la frontière terrestre. Donc on n'a pas pu acheter de carte SIM, ce qu'on fait habituellement à l'aéroport. Mm-hmm. Donc on arrive à Kigali, nous n'avons pas de carte SIM, donc grosso modo nous n'avons pas de téléphone.
Et là c'est chaud parce que votre téléphone c'est quand même un outil hyper important.
Et pas d'atlas.
J'aimerais te dire l'inverse, mais en l'occurrence, heureusement nous avons tout de même un cerveau, et nous avions téléchargé en avance, hors ligne, les cartes Google Maps.
Comme quoi, on en revient toujours aux cartes.
Mmh. Ça nous a sauvé. Fait plaisir. Et le Rwanda étant la Suisse de l'Afrique, ils font très attention à la sécurité. Donc, ce qui fonctionne beaucoup, c'est les taxis moto, en Ouganda aussi. Mais au Rwanda, tu es obligé d'avoir un seul passager par moto.
Ah, oui.
Donc, nous avions chacune notre taxi moto, bien sûr. Dans Kigali, c'est une énorme ville. Hein. C'est 7 fois la surface de Paris, je crois. Mm. Et c'est beaucoup de collines, etc. C'est très compliqué de s'y repérer, de s'y promener à pied. Donc, on était chacune sur une moto. On lui donne une destination, chacune. Et le mien décide de s'arrêter en plein milieu en disant « Non, mais finalement, je n'y vais pas, c'est trop loin. » Donc, il m'a laissé au milieu de Kigali. Donc, ville que je ne connais pas.
Sans possibilité d'appeler Sandra.
Et moi, j'étais restée bloquée à un feu rouge derrière pendant 20 minutes. Donc, vraiment, on s'est perdu.
Vous étiez perdu, oui. Ouais. Les deux véhicules,
c'était perdu. Oui, impossible de se retrouver de visu, ça, c'est sûr.
L'angoisse, là, je pense. Hein.
Voilà. Donc là, j'ai essayé de trouver du Wi-Fi. Et puis, ça a beau être la capitale, il n'y a pas de Wi-Fi autant que chez nous, quoi. Les gens n'ont pas de données mobiles sur leur téléphone, etc.
Et retrouver un autre taxi moto, c'était pas comme ça, tant que ça.
C'est marrant parce que les gens maintenant nous posent cette question. Et sur le coup, j'y ai pas du tout pensé.
Ah oui, c'est vrai.
Je pense que j'étais échaudée, j'étais à la fois furieuse et terrifiée.
Oui, t'as perdu un peu tes moyens.
Oui, complètement.
D'accord.
Donc j'ai fini par rejoindre Sandra à pied, après d'abord avoir essayé. Mon premier réflexe c'était d'essayer de trouver l'internet en fait pour la prévenir. Et normalement, on s'est retrouvés. Hein,
c'est vrai que je me voyais déjà faire les hôpitaux de Kigali.
Carrément. Quand tu l'as vu, quand tu as vu qu'elle n'arrivait pas.
Parce que oui, il y a un passager par moto, mais enfin, c'est hyper ça reste un mode de transport hyper dangereux. On avait vu une chute juste avant. C'était probable.
D'accord. Oui, oui. Ok. Ah oui, donc tu t'es imaginé qu'elle avait eu un accident.
Moi, j'ai une petite question parce que je vois toutes les deux de petites minettes qui se promènent comme ça. Ça peut poser des problèmes, ça aussi, ou globalement?
Oui, c'est quand même un point important, cette question-là. La question de la sécurité, on identifie les femmes comme des personnes plus fragiles face aux événements, aux agressions possibles, etc.
C'est un risque qu'on a en tête. Là où on a eu plus peur, où on l'a plus senti, c'était en Inde.
Ah oui.
Je pense.
Oui.
L'Inde, ils sont connus pour ça. Rwanda, non. Donc Rwanda, de nouveau, c'était safe, très safe.
D'accord.
Kyrgyzstan, on ne savait pas trop, mais finalement, on a découvert aussi qu'on pouvait leur faire tout à fait confiance.
C'est une question quand même qu'on garde en tête. Si je rebondis sur le Kyrgyzstan, on a été un jour, on a pris ces fameux minibus, les Mashrutka, la nuit tombe, on s'arrête, quoi. Mais en fait, on s'arrête dans un endroit à mi-chemin de notre destination finale et il n'y avait pas d'endroit pour dormir. On nous a regardés en nous disant « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et donc, cette personne nous a gentiment invités à dormir chez lui. C'était un homme, il avait quoi, 45 ans. Il vivait seul avec ses deux fils. On a dormi dans son salon, on a mangé avec lui. Et on se le dit quand même, on se dit « Mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi ?» Bon, puis en fait, ça s'est super bien passé. Le lendemain, il a fait 7 heures de route pour nous emmener à un autre point. Enfin,
7 heures de route Waouh, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Incroyable.
Mais ça n'arriverait pas en France, en fait. C'est-à-dire qu'on résonne aussi beaucoup avec nos réflexes de français.
Oui.
Par exemple, au Rwanda, moi, je trouvais souvent que les gens étaient très oppressants, que vraiment, ils me poussaient pour rentrer dans un bus, pour faire la queue, pour machin. Mm-hmm. Donc, au début, je trouve ça juste oppressant. Et puis, un jour, je finis par leur dire, step back, je leur explique, quoi. Eh bien, ils s'excusent en souriant et ils reculent. Et c'est des réflexes qu'on n'a même pas, en fait, tellement... Enfin, on résonne avec... avec nos réflexes français, notre culture, quoi. C'est pour ça que c'est bien de voyager sur le long cours, c'est que du coup, ça te laisse le temps de réadapter un petit peu ta façon de voir les choses et les gens, quoi.
Et ton rythme, ouais.
Et donc, en fait, il y a des pays du monde où tu peux être deux femmes qui se font inviter par un homme et il n'y a aucune ambiguïté.
Ah, c'est d'accord. Génial. Mmh. D'accord. Ça veut dire que du coup, c'est impressionnant.
Il avait même appelé sa femme en visio sur WhatsApp pour nous présenter à sa femme. C'était rigolo.
D'accord.
Et ça change un peu quand vous revenez justement en France. Ça change un peu le point de vue. Il y a un petit temps de réadaptation.
Oui, énorme. Le temps de réadaptation est. Enfin, à chaque
fois.
Je
sais pas s'il est très long, mais il est horrible.
Ouais, il est raide. En fait, je pense c'est qu'il n'est pas très long, mais il est raide. Mais il est raide parce qu'on a passé un mois et demi incroyable, en fait. Ouais. Il faut se réadapter au rythme, à nos problématiques du quotidien, à notre charge mentale qui. C'est vrai que sur le moment, c'est un peu dur de se reconnecter à la réalité. Quoi.
En même temps, du coup, peut-être qu'après, on relativise beaucoup plus aussi, non ?
Oui, ça apprend. Oui, complètement. On relativise plus, c'est sûr. On voit le temps autrement aussi. Oui, absolument. Ça reste positif, mais c'est vrai que le retour, à chaque fois...
Alors, nos invités ont eu la bonne idée d'enregistrer durant leur périple au Rwanda quelques petits sons. C'est pas long du tout, hein, c'est quelques secondes. Et on les a récupérés grâce à vous, merci. Et on va en écouter quelques-uns et vous allez nous commenter un petit peu cette atmosphère, ce qu'il y a autour de ces sons. Alors, le premier qu'on va vous passer nécessite une petite explication. Rwanda. Sandra Oubu, qui se lance dans la présentation.
Alors, le premier son, bon, faut parler un peu anglais et puis surtout faut avoir l'oreille attentive. C'est des enfants, donc je crois que c'est même en Ouganda là, ce son-là, mais on l'a retrouvé tout l'été. C'est des enfants qui, en nous voyant passer, donc effectivement, nous repèrent de loin et en nous voyant nous promener, essayent de nous dire How are you?
How are you? Voilà. Comment allez-vous en anglais?
Exactement. Alors souvent, parfois, ils nous demandent aussi derrière de l'argent.
Bien sûr.
Mais là, c'est surtout le How are you et leur accueil enthousiaste et tellement fier.
On écoute ça, Jean-François?
Hello. How are you? How are you? How are you? How are you?
Effectivement, oui. Donc, ils ne parlent pas anglais. Quelle est la langue au Rwanda? La langue.
Alors, au Rwanda, ils parlent le Kinyarwanda.
D'accord.
Maintenant, l'école est en anglais, mais elle a été longtemps en français. Donc, les plus âgés parlent français.
C'est une ancienne colonie belge, hein, si j'ai pas de bêtises.
Absolument. Ils mangent beaucoup de frites.
D'accord. Les restes de la culture belge. D'accord. Et donc ça, c'est un moyen, vous disiez, de créer du contact, les enfants, qui est assez fort.
Oui. Et c'est vrai qu'au Kyrgyzstan aussi, ils nous disaient beaucoup bonjour, les enfants. En France, je ne suis pas sûre qu'ils feraient ça en voyant un touriste.
Souvent, on se pose la question, en touriste qui se promène dans un village dans le Beaujolais, l'enfant, comment il réagit? Est-ce qu'il va à sa rencontre? Je ne suis pas sûre.
J'en doute un peu, oui. Tout à fait. On écoute un autre son. Alors cette fois, ça sera la surprise. Vas-y, Jean-François. Alors, c'est quoi ça?
T'as pas reconnu?
Je dis une atmosphère sportive avec
grand
des enfants.
Que tu es.
Ouais, tu parles devant ma télé.
Et ça, c'était du coup à Boutaré, la fameuse chanson de Gaël Faye, où finalement on a passé une petite semaine avec une famille rwandaise, une mère célibataire, mère d'un petit garçon de 4 ans et d'un plus grand de 14 ans, de deux pères différents, ce qui est assez rare quand même pour une famille rwandaise, qui est une culture malgré tout plutôt traditionnelle, et qui vivait aussi avec sa sœur. Et elles nous ont accueillis pendant 5 jours, et le grand faisait du basket, et c'est comme ça qu'on se retrouve à aller voir un match de basket sur l'entraînement. Ouais. Bulle à conduire la voiture, parce qu'ils avaient une voiture, mais pas le permis.
Ah oui, ça c'est original.
Voilà, donc Bulle a fait chauffeur. On s'est retrouvé à un stade de un match de foot avec eux, avec tous les locaux, où vraiment
du foot, je crois que c'était du basket.
Oui, tu peux raconter plein de trucs.
Ah, bon. Ah oui, vous avez été voir un match de foot dans un grand stade alors.
Oui, d'accord. Et là c'est vrai que les regards étaient portés sur nous. Après ce, après ce match, il y avait un concert musique de qualité moyenne, mais surtout on était extrêmement regardés, quoi.
Vous étiez les seuls blancs, quoi.
D'accord,
on était les Muzungu. Muzungu, c'est les étrangères.
D'accord. Vous avez eu l'occasion comment de faire connaissance avec cette dame et de l'amener à vous proposer de vous héberger comme ça plusieurs jours ?
Eh bien, on a réclamé, on a fait un safari, en fait, plus ou moins organisé. Donc, c'est là qu'on retombe un peu dans du tourisme, alors du mini-tourisme, etc. Mais bon, et on a demandé à une Rwandaise, du coup, qui s'occupait de ce truc-là, une Rwandaise avec qui on s'était bien entendu. On lui a demandé si elle connaissait des gens qui hébergeaient chez eux. Ça existe assez peu, en fait, a priori. Alors, elle connaissait pas à proprement parler, mais elle avait cette amie, Chantal Aboutaré, qui avait envie de faire ça ou d'ouvrir une auberge de jeunesse ou quelque chose dans le genre. Et donc, du coup, elle lui a proposé et on est rentré en contact via WhatsApp. Et c'était sans rémunération, enfin sans rien, c'était venez chez nous. Et
alors,
par contre, il parlait super bien français.
Ouais.
Donc, elle nous a appris aussi plein de choses sur... sur le pays, sur la culture.
C'est vrai que je me rappelle de l'accueil qu'ils nous ont réservé. On arrive du coup en bus de nuit dans la gare routière de Boutaré, où du coup il y a un monde de fous, très peu de Muzungu, donc de blanches comme nous. Il y avait les deux cousins qui venaient nous chercher, donc plutôt sympa. Les deux cousins en moto. Bon, bah, du coup, deux Muzungu, ils nous repèrent de loin. Donc on prend le taxi moto avec nos gros sacs. On arrive chez elle après, je sais pas, 10 minutes de moto. Et là, un accueil tellement chaleureux.
Des gros hugs et tout, quoi. Enfin, vraiment.
Elles étaient foncièrement... Nous, on était très heureuses d'être là, mais elles aussi. Et donc, en un quart de seconde, on savait qu'on était au bon endroit, quoi.
D'accord.
Pour moi, et on aussi, est toujours en contact avec elles.
Ouais, c'est une rencontre.
Oui,
en fait, c'est ça. Le voyage, c'est une rencontre aussi.
Et vous l'aviez dit hors antenne, c'est pas si facile malgré tout de créer ces liens. Hein. Donc c'est des occasions, il faut arriver à avoir la chance de les construire, mais c'est pas si simple que ça, en fait.
Oui, c'est ça. Je disais à Geneviève, c'est pas parce qu'on veut partir à l'aventure qu'on arrive à vivre des aventures, ça c'est sûr. Il y a aussi ce qu'on dégage, je crois. À deux, d'ailleurs, on marche mieux que seul, en fait. Parce que
le contact est plus facile à deux. C'est étonnant, ça.
Oui, je crois. Je pense que les gens, ils ont moins l'impression qu'on va les coller. Ils ont moins peur qu'on les colle.
Bah, D'accord.
Et ce qui fait que ça fonctionne, c'est quand on reste un peu de temps. Là, avec eux, on est resté 5 ou 6 jours. Au Kyrgyzstan, c'est pareil. On est allé avec des nomades et on est retourné les voir en fin de séjour et on avait passé du temps avec eux.
D'accord.
Et le temps de se découvrir, en fait, de briser la glace. Et ça, quand on part 15 jours en vacances...
C'est quasiment impossible.
C'est impossible.
C'est impossible. D'accord. On écoute un troisième son, Jean-François ? Alors, vous êtes dans un bus là ?
Voilà.
C'est une aventure, les bus, quand même. Il faut nous raconter un peu l'ambiance et tout ça, quand même.
C'est une vraie aventure. Alors, il y a deux types de bus. On a emprunté deux types de bus. Des grands bus, alors qui sont plutôt vétustes et vieux. On est tombé en panne plusieurs fois. Bon, ça, c'est une aventure dans l'aventure.
C'est classique. Hein.
Et il y a aussi les minibus qu'ils appellent là-bas des matatous, qui ressemblent un peu à des hommages Rodka kirghizes. Donc, dans les grands bus, on achète le nombre de billets. Enfin, ils vendent le nombre de billets qui... Enfin,
je crois que c'est
très, très
mal.
Merci. Qui correspondent au nombre de places. Donc, a priori, pas de surbooking, on aura un siège, on sera bien installé. Pour autant, on se presse à l'entrée, mais très très fort.
Incroyable.
Très 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 fort.
C'est promo Nutella chez Intermarché. Incroyable.
Donc,
et on pousse tout le monde, les bébés, les enfants, les vieux, les.
Ah oui, on s'est déjà fâché. Hein. Parce qu'ils poussaient un bébé.
C'est culturel ça en fait, c'est comme ça. Voilà.
Ça c'était dur. Et puis on a été amené à prendre le bus régulièrement.
Ouais.
Et alors, l'enfer sur terre. c'est la gare de bus de Kigali.
Pourquoi ?
C'est-à-dire que même à ton pire ennemi, tu ne nuisais pas 3 heures à Niabougogo.
Ouais.
C'est en tant que blanc, on se fait alpaguer dans tous les sens. C'est très très difficile de s'y retrouver.
On retrouve aussi bien les bus que les taxis, que bah, si jamais toi, Patrick, tu veux me déposer parce que j'ai un bus à prendre, bah, tu peux rentrer avec ta voiture hein, dans la gare routière,
dans
aucun
la gare.
Problème.
Ah ouais.
Si tu veux acheter des tongs, c'est là-bas que tu vas aussi.
Ah oui.
C'est vraiment...
Si aussi, voilà. Donc, c'est un vrai challenge. Et puis, il y a les minibus, là, les matatous, où ils empilent 40 personnes et littéralement, ils empilent les gens sur les autres.
Les gens montent les genoux, sur les genoux les uns des autres.
Oui.
Il y a une espèce de rabatteur qui remplit les matatous. Enfin, ça, on l'a connu en Ouganda. Et je pense que ce n'est pas le cas tout à fait au Rwanda. Mm. Et ils les mènent les uns sur les genoux des autres. Nous, on avait fait un peu les princesses. On avait demandé à voyager à côté du chauffeur aux places de devant pour être un petit peu à l'abri. On s'est quand même retrouvé une fois à 3 sur 2 sièges, quoi. Hein. Donc,
ouais,
il y en a
oui.
une qui est un peu assise sur les cuisses du chauffeur.
Très bien. Il y a un dernier son, je crois, Jean-François. Ça, ça a l'air d'être la récompense, on dirait.
Ouais, c'est ça, c'est un peu pour contrecarrer. Ça, c'est à Zaza, donc c'est au Rwanda. On était dans une ferme qui fait de l'agroécologie. Et donc ça, c'est les sons au matin. Mais en fait, tu entends des gens parler qui sont des fermiers qui viennent travailler, mais il est 4 heures du matin. Hein. Vraiment, il est
oui.
très, très tôt.
D'accord.
D'ailleurs, c'est un son que moi, j'ai enregistré puisque Sandra dormait, très clairement. Et voilà, là, tu comprends la nature, le calme et à quel point ça peut être...
Ce qui fait un chouette contraste avec la gare de Kigali, la ville de Kigali, etc.
Ouais.
Quoi.
On a été obligé de passer à Kigali à chaque fois, mais ça permet de desservir des zones comme celle-ci.
Très bien. On va faire une deuxième pause musicale. Nous allons écouter... Qu'est-ce que nous allons écouter, Bulle ou Sandra?
Nous écoutons Lilloé, découvert au Rwanda.
C'est
un artiste d'Afrique du Sud.
C'est de la chanson Lilloé ou c'est
absolument,
la...
c'est la chanson Lilloé et l'artiste c'est Zahara. Je ne sais plus comment
ça se prononce. Zahara, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est parti. Écoutez Couleurs du Monde, la nouvelle émission mensuelle sur Calade 100.9. Notre émission d'aujourd'hui est consacrée au voyage en mode millennials avec nos deux invités, Sandra et Bulle. Nous venons d'écouter donc une chanteuse s'appelle Zahara, prononciation non garantie. Et la chanson, c'est Lilloé.
Lilloé.
Ah. Bravo, merci.
Ça veut dire quoi?
Aucune idée. C'est une très bonne question.
C'est une chanteuse sud-africaine.
Absolument.
Vous avez découvert ça comment?
On était dans une auberge de jeunesse et ils diffusaient des musiques africaines toute la journée. Et on est tombé là-dessus et il y avait marqué l'artiste, etc. Et on l'a beaucoup aimé, on l'a beaucoup écouté.
D'accord. Voilà. Très bien.
Les musiques d'ailleurs ougandaises et rwandaises étaient plutôt sympas.
D'accord.
Mis à part parfois dans les bus, mais globalement c'était plutôt agréable.
Ok, Geneviève, je te laisse la parole.
Bah écoute, j'ai l'impression que voilà, vous avez ramené un peu du Rwanda, un peu de l'Ouganda, grâce à la musique, grâce à la capture aussi de son. Ça, c'est assez génial, parce que ça fait une carte postale sonore, finalement. Tout ça, sans smartphone, ça semble un peu compliqué, quand même. Ça veut dire qu'avant, on ne pouvait pas voyager.
Ah bah moi, je suis la première admiratrice des vrais aventuriers, quoi, qui voyageaient sans smartphone, sans Internet, avec... une carte, un atlas, tu l'aimes tant Geneviève, et qui partait à l'aventure, quoi. Et ça, c'est pour moi les vrais baroudeurs, les vrais aventuriers. Et moi, je trouve que c'est facile, en fait. Aujourd'hui, les smartphones, c'est un super outil.
Ouais.
Le challenge, malgré tout, c'est qu'il faut arriver à s'en déconnecter quand
voilà.
on voyage.
Ouais,
qui n'est pas toujours facile de sortir de nos réflexes quotidiens et d'arriver à s'en déconnecter pour s'en servir utilement.
S'en servir pour ce qu'il est finalement, c'est-à-dire un très bon outil, et que finalement on peut avoir le choix aujourd'hui entre faire du tourisme ou vraiment faire un beau voyage, et que c'est peut-être un peu plus à la portée de tout un chacun, c'est juste une histoire de volonté finalement, d'envie.
Ouais, et puis il faut connaître quand même les bons outils sur le.
Ouais, t'aurais des petits conseils à donner ?
Oui, bah alors vraiment télécharger les cartes hors connexion, que ce soit via le gros américain ou d'autres, c'est possible. Ça permet de faire plein de choses, notamment d'aller se balader, d'aller randonner un peu, de partir à l'aventure en ayant au moins une carte. C'est quand même.
C'est mieux
plutôt,
quand même.
Voilà, c'est plutôt souhaitable. Repérer en avance les applis style Uber et toutes ces choses, il y en a dans les grandes villes maintenant, il y en a un peu dans tous les pays. Ça te permet d'avoir une idée de prix. Et du coup, de ne pas faire arnaquer par le premier taxi qui vient.
Avoir des références.
Voilà. Et puis, c'est un bon outil quand même pour garder un peu le lien avec la France, pour
peut-être rassurer
la famille, etc. Ouais. Et,
d'ailleurs, tu utilisais un outil, moi, j'étais plutôt initialement assez réticente, qui s'appelle PolarStep.
C'est quoi ça ?
C'est quoi ça ?
Alors c'est quoi Bulle ?
Polar Step.
Alors ça, c'est un truc que les non-millennials, ils pensent que c'est un site internet, et pas du tout. C'est une application qui suit ta localisation GPS.
Ouais.
Déjà, ça permet
quand même.
C'est les
polars en fait.
Voilà, exactement. Ça permet de suivre ta position.
J'en suis presque une.
Ouais, c'est vrai, t'es pas loin. Moi non.
Donc au moins les gens te voient bouger. Donc déjà ça c'est rassurant. Je m'en étais servi quand j'avais voyagé seule et ça c'est rassurant. Au moins on voit ta position en temps réel et ça permet de à chaque étape de mettre des petites photos et un petit peu de texte pour expliquer ce que tu as fait, etc.
C'est vrai que c'est un bel outil quand j'ai consulté et ça permet vraiment d'ajouter du concret au fait de vous suivre.
Et qui finalement nous permet de nous déconnecter, puisqu'elle va se connecter une fois, je pense, 4-5 jours pour charger les photos et notre aventure. Et voilà.
Et voilà.
Et on a
donc
plus besoin
vous avez fait votre part pour rassurer les familles
ça,
et tout ça.
Absolument.
D'accord, très bien. Alors, pour finir l'émission, on a décidé de vous taquiner un petit peu. Et mon point de départ, c'était pas vous spécifiquement, mais c'était donc ce fameux tourisme de masse qui a explosé depuis une vingtaine d'années. Et on va parler franchement, ce tourisme de masse, il crée des dégâts écologiques, environnementaux absolument effroyables. D'où la question, est-ce que vous questionnez sur, à minima, quand vous prenez l'avion, l'impact environnemental de vos pérégrinations ?
Évidemment, je crois que la réponse est hyper claire et que le tourisme de masse ou les voyages vacances contribuent au dérèglement climatique.
Oui.
Et c'est de plus en plus difficile à gérer finalement dans notre quotidien. Enfin, non pas dans notre quotidien, pas du tout. Quand on prend un billet, systématiquement, je me pose la question et je m'en veux. Mais je m'en veux a priori pas suffisamment, c'est là où on est plein de contradictions, pour ne pas y aller.
Mais après, ce que tu dis, par exemple, je vais compenser par autre chose, enfin, la façon dont vous voyagez, je vais me faire tout de suite l'avocate, mais moi, ça me semble beaucoup plus respectueux que de partir dans un hôtel club.
Oui, déjà.
Mais plus respectueux, c'est parfois pas suffisant, mais et puis nous, on se rassure en se disant, au moins, on part un mois et demi.
Oui,
comme
voilà.
Si on rentabilisait en quelque sorte,
c'est pas juste
carbone, quoi. Voilà.
Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'occulte pas du tout, voire ça nous fait même envie de partir en train. Partir en train au Rwanda, c'est compliqué, mais il y a plein
ça
de.
Ça restreindrait votre champ, mais c'est quand même possible.
Ça reste possible. On peut atteindre le continent africain, par exemple, via des ferries, etc. Après, il y a des questions de sécurité pour le coup, parce que tu traverses des frontières qui ne sont pas forcément faciles. Il y a des reliefs qui sont parfois aussi un peu compliqués à franchir. Et puis, il y a des questions de visa, etc. Mais ça reste possible.
D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de la... J'ai toujours ma provoque. De la proposition de Jean-Marc Jancovici qui dit, ben voilà, pour lutter vraiment contre le réchauffement climatique, il faut limiter le droit de chaque individu français à avoir 4 voyages en avion dans sa vie, point barre.
Bah, je comprends. On rachètera les tiens.
Ouais, pas de problème. Ouais, ouais. On va faire un marché des voyages en avion.
Parallèle.
Et je vais me faire de la thune comme je...
Bah, exactement.
J'ai abandonné ces velléités. Très bien. Geneviève, d'autres questions ?
Bah, moi, j'étais ravie de rencontrer finalement deux aventurières. Ce que vous racontez, ça me fait penser un peu à l'expérience d'Alexandra David-Neal, hein, deux aventurières du 21e siècle, deux millennials qui découvre le monde. Et merci de l'avoir partagé un peu avec nous ce soir.
Avec plaisir.
Vos prochains projets, donc, c'est... C'est pas fixé encore.
Si, on n'a pas parlé de la Jordanie, mais c'est notre premier voyage Jordanie. Avec Bulle. Et ouais. C'est notre grand coup de cœur, Jordanie.
Ouais. Alors, on n'a plus le temps, mais j'avais un texte bien taquin de Mediapart qui racontait les destructions terribles du tourisme de masse en Jordanie. Bon, je vous le laisserai, hein, comme ça vous pourrez le lire. Chers auditeurs,
mais
nous
on
en
a dit
avons
voyage,
terminé.
Pas
oui, oui, mais malheureusement, elle voyage, mais il y a beaucoup de touristes en Jordanie en même temps.
Oui,
nous en avons terminé. Merci Bulle, merci Sandra de nous avoir accompagnés. Geneviève, Jean-François, à la prochaine.
Calade, les couleurs du monde.
Histoire,
pensée,
culture.
De Villefranche à Tataouine.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.